Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir, ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.
Nous allons partager un jardin. Enfin, on va essayer. Ici, autour du studio d'enregistrement, il y a des espaces verts, un grand jardin. Peut-être comme il y en a chez vous, au pied de votre immeuble ou dans le parc municipal. J'ai d'ailleurs une bonne nouvelle pour vous, les bailleurs sociaux sont souvent très preneurs d'initiatives de jardins en commun ou de jardins d'habitants parfois. Lien social, convivialité, réappropriation des espaces communs, les avantages sont multiples et ils l'ont bien compris. Le plus difficile, les gens. Les mobiliser, les motiver, les maintenir motivés, tout ça c'est une vraie activité en soi de votre jardin partagé, probablement même une des premières. Vous ne vous y connaissez guère en dynamique collective, vous savez mieux faire germer les courges que les vocations, qu'à cela ne tienne cultiver son voisinage grâce au jardinage. C'est le thème du jour de Couleur Terre, votre émission préférée de papotage agro-éco-permaculturel. Avec aujourd'hui Hélène Hollard. Hélène, bonjour.
Bonjour.
Avec Titane qui nous enregistre aujourd'hui.
Bonjour.
Et puis avec Méina. Bonjour Méina.
Bonjour.
Méina Vernette du Jardin des Taupes Modèles à Saint-Joire-en-Maldenne. Et avec Marcel Péot. Bonjour Marcel Péot.
Bonjour.
Qui est le président, un président de conseil de quartier de la ville de Bourgoin-Jallieu. Mais avant que nous rentrions dans le vif du sujet, c'est le moment des réponses à vos questions. Questions que nous prenons sur les réseaux sociaux, mais que vous pouvez aussi adresser à questions, au singulier, questions@radioperma.org. Alors, une question qui nous arrive de Claude Ninovis. Petite question. En déménageant le cabanon de jardin d'un grand-oncle, j'ai trouvé des sachets de graines qui datent de 1982. Pensez-vous que ces graines sont encore capables de pousser, germer? Merci d'avance. Alors, Hélène?
Oui, et ben le mieux, c'est de faire un test de germination, c'est-à-dire de les mettre dans l'eau, de voir combien vont germer. Au moment, alors je ne sais pas ce que c'est comme graine, tu as dit?
Eh bien, il ne l'a pas dit. Non, je pense dit, que ce serait une donnée intéressante.
Oui, parce qu'elle veut faire au moment où elle veut les semer, quoi. Mm-hmm. Et puis, soit ça germe et elle peut les mettre, soit ça ne germe pas du tout, soit ça germe un petit peu, donc elle mettra un peu plus de densité. Voilà. Mm-hmm. C'est le plus simple, quoi. On ne peut pas répondre à distance. Sinon, elle peut quand même chercher dans les bouquins sur dans les bouquins sur les productions de semences. Ben, la prochaine mm-hmm. émission, on en parlera plus. Il y a les dates, les durées pour chaque espèce, il y a la durée germinative moyenne des graines.
La durée germinative, c'est le temps
pendant lequel la graine peut, la durée pendant laquelle la graine peut germer.
Mmh. Sachant qu'il y a beaucoup de graines, 1982, ça me paraît quand même un petit peu audacieux, mais sur des graines type courge, haricots, ce sera probablement ratiboisé et raté. Si c'est du blé ou si c'est des graines type céréales, graines sèches, monocotylédones, ça passera peut-être un peu plus.
Oui, puis savoir comment ça a été conservé, si c'était bien au sec, si ça a été mouillé, resséché, enfin tout ça quoi.
Moisi, bouloté,
voilà, vénité,
mité.
Voilà. Beaucoup de facteurs. Hein.
Ouais, ça fait un peu beaucoup. Ouais. Question suivante, Michael Baudry qui écrit du Japon. Alors c'est une question qu'on a reçue un peu en hiver, donc c'est une question intéressante néanmoins, mais qui n'est plus tout à fait de saison. Ne chauffant pas notre maison, je cherche un moyen de chauffer une petite serre afin de maintenir une température minimale pour les semis. Auriez-vous des conseils, s'il vous plaît? Merci pour votre aide.
Je vais répondre aussi. Le mieux dans une petite serre comme ça, c'est de faire un tas de compost qui va monter en fermentation et dans lequel on peut faire passer des serpentins avec de l'eau, par exemple, ou des systèmes comme ça. Et on pourra, ou même si c'est tout petit, juste le fait d'avoir un tas de compost à l'intérieur qui va chauffer, ça va permettre de tempérer l'atmosphère. Par contre, il faudra pas faire le compost, disons, de façon comme pour faire du compost pour avoir de l'humus à la fin. Il faudra plutôt faire un compost qu'on va réalimenter régulièrement ou retourner pour qu'il y ait toujours la montée en température.
D'accord. Et pour une serre un peu plus grande, peut-être?
Ah ben, on peut aussi. Moi, j'ai vu des maraîchers hein, qui chauffaient leur serre comme ça, avec des serpentins d'eau qui passaient dans le compost. Et donc, le compost, il peut monter jusqu'à 60. Là, du coup, comme c'est, on recherche la montée en température, on peut laisser monter à 60, 70. Et donc, l'eau circule dedans, elle chauffe en permanence.
Donc, à vous d'adapter aussi les techniques en fonction de l'usage que vous voulez faire de votre technique.
Oui, puis le volume de la serre. Quoi. Mm-hmm.
Donc, ça peut se faire avec du fumier, ça peut se faire...
Oui, ça peut se faire avec n'importe quoi. L'essentiel, c'est de maîtriser la fermentation pour qu'il y ait la montée en température.
D'accord, ben, on dira... Brave Jean, écoutez notre émission sur le compost, nos émissions voilà. Sur le compost, puisqu'on a fait deux à ce sujet-là. Pour une serre plus grande, donc un gros tas de compost, ça le ferait ou
oui.
Plusieurs petits ou...
Non, il vaut mieux faire un gros et puis faire plus de tuyaux plus longs avec de l'eau qui circule que de faire plusieurs tas, parce que ce sera plus dur de faire monter en température et de maîtriser.
L'eau qui circule avec un circulateur ou serpentin basique, ça circule
qu'on appelle ça. L'eau chaude, elle va circuler. Dès que l'eau chaude est chaude, elle a envie de monter, donc elle va bouger. Quoi.
D'accord, ok. Donc ça fait simplement circuler.
Thermosiphon, c'est ça ?
Thermosiphon,
voilà,
c'est ça. C'est Jean Pin qui a beaucoup utilisé ça pour même chauffer des endroits avec un gros tas de compost à côté. Et j'ai eu connu un très bon permaculteur, Steve Reed, bonjour, qui chauffait sa roulotte avec un tas de compost qu'il avait fait dans un réfrigérateur. C'était fermé, et du coup c'était isolé. La seule sortie de chaleur, c'était le tuyau de serpentin qui allait dans sa roulotte.
D'accord. Mais il sortait ça ou il sortait. Qu'est-ce qu'il faisait des gaz ? Il n'y avait pas de méthane ?
Il avait une petite dégazeuse quand même. Enfin bref, c'était. Je suis sûr qu'il en parlera mieux que moi parce qu'il est un très bon technicien. Steve Reed, vous le trouverez facilement. C'est le Jean Pin du 21e siècle. Enfin bref. On a fait le tour de cette question-là sur comment chauffer une serre compost, d'autres manières peut-être, mais Ina, tout de suite.
Je pense les poules, mais je n'ai pas expérimenté. D'avoir
des poules
dans le tunnel ou dans la serre, sur une partie limitée. Mmh. Et la chaleur, non pas humaine, mais animale, est telle qu'effectivement, ça permet de chauffer les serres.
C'est vrai, c'est un truc qu'on voit de temps en temps dans les designs, de mettre le poulailler adossé à la serre. Pour qu'il y ait un échange, ça peut le faire. Des animaux, quoi, au sens large. D'accord. Donc, gardez vos enfants dans la serre, c'est le meilleur endroit pour qu'elle chauffe. Dernière question de Eric Thauvin. Bonjour à toutes et à tous. Une petite question, est-il absolument nécessaire d'acheter du terreau industriel pour démarrer les semis ou y a-t-il des alternatives ? Eric, tu sais bien qu'il n'y a pas d'alternative, comme l'a dit Margaret Thatcher. Ou bien t'écoutes Couleur Terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a ?
Oui, bien sûr qu'on peut le faire soi-même.
Comment on peut faire ?
Ben, en mélangeant du compost bien mûr et tamisé avec un peu de terre, de la terre de taupe par exemple, ou de campagnole qui va être excellent. Ça fait un terreau de semis tout à fait correct.
Qualitatif,
qui va bien retenir l'eau, parce que souvent les terreaux de semis du commerce sont très très déshydratants, donc on est obligé d'arroser tous les jours, ça sèche, donc faire soi-même son terreau, c'est l'idéal.
Mm-hmm. Moi je rajoute un peu de sable aussi pour que la texture soit...
Ah oui, j'ai pas dit sable ?
Non,
je l'ai juste pensé.
Du sable, de la terre de taupe et un peu de compost, c'est mieux que du terreau industriel dont on ne sait pas trop de quoi il est fait.
Et on met un tiers de chaque, en fait.
Un tiers de chaque ? Super. C'est comme le 4 quarts, mais avec des tiers.
Et voilà.
Super.
À 3 tiers.
3 tiers. Allez, on s'écoute un peu de musique ? On s'écoute un peu de musique. Et aujourd'hui, on écoute rien de moins que Caravane Namasté. À tout de suite.
Se lever tous les matins. matin pour aller au chagrin. J'ai vu ma mère me bercer de ses mains pour de meilleurs lendemains. J'ai regardé les infos à la télé en espérant que ce soit du ciné. Ça m'a fait froid dans le dos toute cette réalité et j'ai décidé de ce que je voulais. Il faudra bien changer le monde puisque la terre n'est plus vraiment ronde, puisque les hommes marchent de travers, été comme hiver, depuis des millénaires. J'ai eu si mal pour tous ces enfants, voir la terre de leurs parents. Ils trouvent ça normal et glorifiant de semer la mort à tout vent. Sont des médailles, des ornements, se font décorer meilleurs combattants. Mais même le pire, oui le pire des tyrans, a une petite maman. Y pense-t-il souvent quand il organise les bains de sang. Il faudra bien changer le monde puisque la terre n'est plus vraiment ronde, puisque les hommes marchent de travers, été comme hiver depuis des millénaires. Industriels, banquiers, consommateurs, dans ce bordel nous sommes tous acteurs. Des plateformes pétrolières aux super air inter, tous dans la même galère. On cherche le profit jusqu'à vendre nos vies et on laisse de côté ce qu'il faudrait guetter. La générosité n'a jamais rien fait gagner. Il faudra bien changer le monde puisque la terre n'est plus vraiment ronde, puisque les hommes marchent de travers, été comme hiver, depuis des millénaires. Tout est à revoir, il faut de la foi pour croire qu'il reste encore un espoir.
Y'a de l'espoir.
Et je crois en l'homme, en sa capacité de pouvoir tout changer.
On le peut.
Peuple de la terre, unissez-vous. La dernière guerre est à l'intérieur de nous. Je vous souhaite du courage pour rattraper les dérapages. Mais n'oubliez jamais, même dans la chair divisée, nous sommes tous du même côté. Du côté de la pollution infinie jusqu'à la terre, le paradis. Et on a bien changé le monde.
Et on a bien changé le monde.
Et la terre est de nouveau ronde.
Et la terre est de nouveau ronde.
Les hommes marchent dans le droit chemin.
Les hommes marchent dans le droit chemin.
Accepte de tendre la main. Et je suis fier d'être un humain.
Couleur FM 97.1, vous êtes dans Couleur Terre et vous venez d'écouter Caravane Namasté, On est le tout. Et le titre que nous venons d'écouter, c'était le premier titre de leur album, Il faudra bien changer le monde. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Marcel Péot, qui est conseiller de quartier, donc qui est inscrit dans la dynamique participative obligée désormais un peu par la loi dans les grandes villes, pas forcément obligée dans les villes de plus petite ampleur. Donc saluons la ville de Bourgoin-Jallieu de faire ça, c'est une très bonne idée. Et si on est avec lui, c'est pour parler justement de cette notion de participatif. On est également particulièrement avec Meïna qui anime des jardins sur Annecy, ce genre de choses. Ce serait quoi la première étape de quelqu'un qui a envie de monter un jardin partagé? Ce serait quoi la première chose à faire en termes humains, selon vous, Mina?
Oui, je pense que c'est de constituer un petit groupe, un noyau, pour partir non pas de quelque chose d'individuel, mais déjà d'un petit collectif, pour vraiment travailler sur la mobilisation des habitants, mais sur qu'est-ce qu'ils ont envie de construire ensemble. Pour pas projeter justement une idée toute faite de « on voit le jardin comme ci, comme ça », mais que ce soit les futurs participants qui montent leur propre projet. Ça paraît essentiel pour la réussite des projets, dès la conception, avant même la conception, en fait, pourquoi ce jardin, qu'est-ce qu'on a envie d'y vivre, qu'est-ce qu'on projette comme rêve, qu'est-ce qu'on a comme limite aussi, voilà, comme ressources disponibles à un moment T, ressources justement de temps, d'énergie, de personnes, et puis après travailler même jusqu'à l'aménagement ensemble pour concevoir le site. Et quand les personnes sont impliquées dès le démarrage, généralement il n'y a pas de souci, de mobilisation, parce que ça devient leur projet.
Vous êtes d'accord?
Je suis tout à fait d'accord. Il faut que ce soit les gens qui montent le projet et pas qu'on leur impose des idées de projet. Ça marche pas si on impose quelque chose. Il faut que les gens adhèrent et pour qu'ils adhèrent, il faut qu'ils soient moteurs dans le projet. Donc effectivement, si on regarde aujourd'hui ce qu'il en est avec les jardins partagés, les jardins collectifs, il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a des tas de gens qui sont intéressés pour faire de la culture bio que l'on ne trouve pas forcément facilement. Et il y a beaucoup de gens qui recherchent des petits bouts de terrain. Donc c'est vrai que dans des groupes comme les conseils de quartier, les pieds d'immeubles, toutes ces choses-là où il y a du monde en collectif, on arrive à faire des petits bouts de jardins partagés qui sont a priori relativement intéressants. Voilà.
Alors comment on arrive à constituer un noyau de personnes? Parce que finalement c'est la première étape, mais dans la plupart des projets collectifs que j'ai eu à animer, c'est pour moi la partie la plus difficile. C'est peut-être justement celle-ci de créer le centre de nucléation.
Première chose, il faut suggérer. Si on a une idée, on prend le cas d'aujourd'hui, il y a un terrain qui serait disponible pour faire un jardin partagé. Personne ne le sait, à part nous. Donc il faut faire passer ce message en disant « il y a un potentiel jardin ». Mais pas dire « on veut faire un jardin à laquelle vous allez venir ». Il faut dire il y a un potentiel jardin à proximité. Et on va voir les gens qui vont se réunir autour de cette idée. Et après, c'est eux qui sont preneurs du projet, c'est eux qui vont le construire. Nous, on n'est plus que là pour leur ouvrir les sésames, à vrai dire. On va ouvrir les portes de la mairie, les portes de je sais pas de quoi, on va acheter du matériel, on va trouver peut-être des petits financements, des petits budgets. Mais il faut que ce soit les gens qui ont envie de faire jardin, qui construisent eux-mêmes leur projet autour de ce jardin. Okay. Si on leur impose et la surface, et le lieu, et toi, tu prendras tel endroit, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'ils restent le groupe, qu'ils fonctionnent dans leur groupe à eux.
Oui, moi je rajouterais qu'effectivement, c'est une bonne communication au départ, assez large, la plus large possible, en excluant voilà, personne, et ensuite bah, voilà, de se retrouver autour d'une table ou autour d'un repas partagé, et évoquer les choses. Et puis je pense que la réussite des projets aussi, d'après l'expérience que je peux avoir sur les accompagnements à Annecy, où je fais plus de l'accompagnement que de l'animation de jardin. D'accord. Donc ça consiste vraiment à créer la dynamique de groupe pour que le groupe détermine son fonctionnement en tant que groupe de jardiniers, et puis ensuite, dans un deuxième temps, des formations aux pratiques agroécologiques. Mais donc, ce qui est important, je pense, de mon expérience, c'est vraiment de trouver le juste équilibre entre la part individuelle et la part collective. Parce que souvent, ce qui achoppe dans les jardins, quand on est sur du tout collectif, c'est justement ce tout collectif. On n'est quand même pas encore totalement prêt aujourd'hui à tout mettre en commun. Ça viendra, hein, j'espère bien. Mais voilà, en termes de rapport à la terre, rapport au jardin et à la terre, c'est quelque chose d'extrêmement intime et c'est pas forcément évident à partager. Moi, je l'ai vu même dans des couples, hein, des couples qui ont des jardins, ils ont chacun leur bout de jardin parce qu'ils ne voient pas les choses de la même manière. Donc, je pense que l'important, c'est de trouver cette articulation où il y a des choses en collectif qui fait qu'il y a cette dynamique de groupe qui permet d'avancer et en même temps, comment l'individu s'y retrouve là-dedans.
Sur la question des outils, moi je peux renvoyer à nos auditeurs sur une émission qu'on a faite il y a quelques temps avec Radio Perma sur le Rêve du Dragon, qui est une méthode de gestion de projet collectif qui s'appuie entre autres sur le rêve et qui peut proposer un outil sur cette étape-là. Une fois qu'on a fait la com, une fois qu'on a quelques personnes qui viennent discuter autour de Petit Biscuit, de les connecter à leur rêve en leur demandant de se placer 6 mois plus tard et de se dire, bon ben voilà, dans 6 mois, pour que vous fassiez encore partie du projet ou pour que vous considériez que c'est une réussite, ce serait quoi vos critères? Et on fait la liste de ces critères-là avec la petite initiale de la personne à côté. Chacun reste dépositaire de son critère, mais de cette manière-là, on dépeint quelque part le projet en se projetant, sans pour autant que ce soit immédiatement quelque chose qui va... On n'arrête rien, quoi. C'est pas non plus du brainstorming tout à fait, mais on n'arrête rien. La méthode de base étant d'avoir chacun un critère à la fois, et puis on fait tourner le bâton de parole, chacun un critère à la fois. Ça permet de canaliser les pensées et d'avoir un document de travail, de constituer un document de travail avec lequel on peut ensuite aller vers des instances type conseil de quartier, type bailleurs sociaux qui, effectivement, vont nous ouvrir des portes qu'on pense souvent closes, mais qui sont loin d'être closes, en fait, hein. Hélène.
Juste une question par rapport à ça, indépendamment d'un jardin, quand vous, en tant que conseiller de quartier ou président de conseil de quartier, vous souhaitez motiver les gens ou, par exemple, il y a des idées ou un terrain, ça, comment ça fonctionne pour que vous réunissiez les gens régulièrement, vous les voyez individuellement, comment vous faites pour...
Alors, les conseils de quartier fonctionnent toujours avec, pour principe, l'intérêt général. Donc, il faut trouver un sujet qui concerne l'intérêt général. Et souvent, ce sont les gens qui sont porteurs des sujets et qui nous les amènent. Les gens, tous les citoyens sont des sentinelles de la démocratie participative. Ils surveillent leur quartier, ils connaissent leur quartier, ils vivent dans leur quartier. C'est eux qui font voir ce que l'on ne voit pas en passant tous les jours à côté. Donc celui qui amène le sujet, on le développe, on regarde s'il est recevable, si c'est réalisable, sur le plan budgétaire, sur le plan technique. Et à partir de ce moment-là, le conseil de quartier se met en route. Première réunion, on expose l'idée de la personne, en disant bien que ce n'est pas une idée à nous, c'est une idée d'une personne qui n'est pas forcément d'ailleurs dans l'assistance. Il y a des gens qui ne veulent pas venir dans les réunions parce qu'ils n'osent pas venir parler, mais enfin bon, peu importe. On part sur ce projet, on le fait adopter par les gens qui sont en réunion, et à partir du moment où il est validé, on met en route tout le système de nos aides que l'on peut avoir, les élus, les techniciens, d'autres conseils de quartier, on essaye de travailler en mêlant tout ça. Mais au départ, c'est quand même quelqu'un qui a eu l'idée. C'est pas forcément un membre du conseil de quartier et pas forcément le président qui a les idées, parce que ce serait trop facile si c'était, enfin, ou
trop difficile.
Trop difficile. il faut prendre les idées des gens. Et souvent, des petites idées qui nous paraissent un peu tordues, je m'excuse du terme, un peu tordues au départ, quand on creuse un peu et qu'on cherche que les gens ont voulu mettre derrière et pourquoi ils ont voulu faire ça, ça devient très intéressant, on arrive à motiver des tas de gens. Nous, on a eu le projet de réhabilitation d'une façade sur le Hall Cassan, on a réhabilité une stèle au jardin de ville, une stèle d'un ancien maire. On a fait mettre des jeux pour enfants. On a fait embellir et sécuriser le jardin de ville. Mais toutes ces actions-là sont arrivées de gens qui ont dit « Pourquoi on ne ferait pas ceci ? Pourquoi on ne ferait pas cela ?» Et après, effectivement, on part dans ces directions. Et pour un jardin, c'est pareil. Puis après, le jardin, l'intérêt du jardin aussi, c'est un peu la concurrence qu'il va y avoir entre les gens, qui va faire émulsion. Parce que moi, je suis plus cultivateur que les autres, je sais mieux faire. Mais en sachant mieux faire, je vais guider ceux qui ne savent pas faire. Je vais être leur professeur sans le vouloir. Et ça, c'est intéressant aussi comme partage. Parce que c'est pas le vrai partage, dire c'est moi le chef et je vous dis comment ça marche. C'est je fais, et si ça vous plaît, vous venez copier sur moi. Et moi, je vais aller copier sur vous, à la bonne blague, hein, quand même, à l'inverse. Voilà.
Oui, une chose sur laquelle j'aimerais rebondir dans ce que vous avez dit, Marcel Péot, c'est aller chercher l'idée qu'il y a derrière ce que la personne amène. Je pense que c'est un point tout particulièrement important dans les dynamiques collectives, de pas forcément s'accrocher à la solution qu'on a trouvée, à la stratégie qu'on veut adopter, mais au contraire, et surtout quand on est plusieurs, d'arriver à remonter à pourquoi je veux faire ça. C'est quoi qui est important pour moi si je fais ça? Parce que des fois, fois, il y a des gens qui vont dire, ah ben moi, je veux absolument faire un jardin partagé, faire 30 mètres carrés de jardin, etc. Et puis on se rend compte que finalement, ils veulent faire des plantes aromatiques. Ben, c'est peut-être pas indispensable d'avoir un jardin partagé. Ça se trouve, il faut peut-être monter un club de jardinage où chacun va faire des choses sur ses balconnières. Il y a des gens, en fait, qui vont vouloir faire ça pour le lien social, mais ça se trouve, ce qui compte, ce serait peut-être plus utile de faire un apéritif une fois par mois. En fait, la stratégie n'est pas forcément l'intention positive, et cette intention positive, pour moi, elle est la clé de l'entente collective. Et je pense qu'il faut être prêt à renégocier ces choses-là.
Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est ça, c'est aussi de dire qu'il y a des gens qui apportent les idées, et après, de mettre ça en place, c'est-à-dire de tout le monde ensemble, en fait, de décortiquer un peu, de voir ce qui motive. C'est un peu ce point d'ancrage de départ. Quoi,
voilà. Mais ça, c'est le principe même de la démocratie participative.
Oui, oui, oui.
Démocratie participative, c'est pas simplement deux ou trois personnes qui font la pluie et le beau temps dans leur quartier.
En principe, oui.
En principe. En principe, oui. Donc, mais après c'est pareil. C'est un travail de groupe aussi. Il faut savoir être à l'écoute des gens, savoir les diriger sans être trop directif, les diriger sans être directif, et être surtout à l'écoute des gens. C'est ça. Mais c'est complexe, hein.
Allez, on va s'écouter un titre musical. La démocratie participative. Quelle question intéressante. Une démocratie qui n'est pas participative est-elle encore une démocratie?
Ouais.
Allez, bon.
Une participation qui n'est pas démocratique.
Et une participation qui n'est pas démocratique. Allez, Caravane Namasté.
Il y a peut-être un titre qui va avec ça, d'ailleurs.
Il y a un titre qui va avec ça.
Je ne sais pas.
On va rester. Oui, on va rester sur notre 12, ça sonne bien. On est le tout.
Oui, voilà.
Voilà. À tout de suite.
Oui. On est le tout, on est le rien. Tout un chacun. Des griffes, des temps bien aiguisés. Et les rivières qui ont coulé. Une clope et un petit carvé. Ton rivière tout illuminé. On parle, on pense et l'on trébuche. On sent la flamme, on est la bûche. Tout un courton à nous tout seul. Plus personne pour nous faire la gueule. On a enlevé nos chaussures. Et plus jamais jeté d'ordures. On pense uniquement au présent. Le futur refuse l'armement. Faudra-t-il attendre encore que sous les coups se brisent les corps, que l'autorité n'ait plus tort et qu'on tombe tous enfin d'accord. Car face aux jeunes, il y a des matraques, des tonnes de guerre, un vrai massacre. Ils défient, ils sont contents devant le nouveau président. Ils le saluent gentiment, l'auteur des prochains bains de sang. Y a pas la haine, pas de calmant pour tes migraines. Mal qui tronche depuis des années, c'est le mal de l'humanité. Moi j'ai pris ces chemins croisés, un peu de rien et de concret, de science et de spiritualité. Dieu est l'atome qui a tout créé, tu le vois pas mais il est là. À présent laissez-moi si flotter tout ça, moi délivré de mon karma. Je vous aime et je sais pourquoi, je sais pourquoi. Je la résume dans ma complainte. Ceux qui nous ont cachés des tonnes de secrets dans les caisses de l'État. C'est ton argent à toi. Et regarde où il va. Dans les armes des soldats. Y'a ta femme la névrosée qui veut même plus baiser. Confie ceux qui restent accrochés aux écrans d'ordi de télé. Ta fille à moitié à Walpé. Moi qui aimais c'est se faire violer. Et cette voix dans ta tête. Oh oui, qui ne cesse de te répéter qu'il faudrait la laisser flotter en haut d'une montagne, prendre de l'altitude, regarder les oiseaux qui planent, oublier les fortunes, quel est l'important dans la vie. Et tu me réponds non merci, il me dit je rigole, que le monde s'affole, je reste dans ma piole à contempler mes grolles. Faire comprendre qu'il n'y a rien à l'extérieur que tu puisses trouver dans ton cœur. Tu es un Dieu lumineux. Chante avec moi, découvre-toi,
découvre-toi. J'ai crié à tout le village, il y a un nouveau rivage, une étendue magnifique où des poètes fantastiques, ils ont compris qu'ils pouvaient vivre en accord avec l'avenir, qu'ils pouvaient prendre et donner, autant comprendre et pardonner. Ils ont construit des cabanes en bois, ils vivent au rythme d'une loi. Donne autant aux autres qu'à toi, donne autant aux autres qu'à toi. Qu'on peut en finir là. Je crois qu'on peut en finir là.
Couleur FM 97.1, vous êtes dans Couleur Terre et nous parlons dynamique collective aujourd'hui. En début d'émission, nous avons parlé de lancement de la dynamique collective. Maintenant, on va peut-être parler de la gestion quotidienne. Maintenant, votre merveilleux projet est lancé. Comment on fait pour le maintenir? Tiens, d'ailleurs, comment on fait pour le maintenir? Comment on maintient la motivation des gens? Vous savez déjà? Ah, Marcel nous fait des signes de rame, ce qui n'est pas du tout radiophonique, mais qui prouve quand même que c'est peut-être difficile. Ah, on peut lancer des projets, mais ils s'écrasent comme des pommes après. Déjà.
Alors, justement, enfin, moi, j'ai envie de dire, il ne s'écrasera pas comme une pomme si c'est vraiment le projet des gens et qu'ils le portent, et donc ils sont motivés, donc il n'y a pas besoin de relancer la motivation. Si, dans la mesure où chacun a trouvé sa place aussi dans le projet, je pense qu'il faut une organisation en même temps que la construction du projet, avec des responsabilités partagées, avec des talents qui s'expriment, avec voilà. Et si ça c'est en place, il peut y avoir des mouvements à l'intérieur du groupe, bien sûr, des gens qui partent, mais garder à l'esprit que le projet il a son existence propre. Et que si c'est un projet qui a été fondé de manière saine, bah, des gens vont revenir, ça va circuler, ça va. Voilà, il ne faut pas chercher, je pense, à figer les projets. Parce que si on retrouve à ce moment-là l'idée du projet plaqué qu'on a au départ, des nouvelles personnes peuvent intégrer le groupe, ça peut amener des changements, ça peut amener. Et je pense qu'il faut rester vraiment ouvert et. Travailler sur cette question de talent de chacun, de force de chacun. Vous parliez tout à l'heure de voilà, les anciens qui savent et les nouveaux ou les nouveaux jardiniers qui ne savent pas. Je pense que justement, c'est cette rencontre entre des connaissances qui ont été testées et puis des expérimentations. Les jeunes sont souvent, enfin les jeunes jardiniers, hein, qui peuvent être des anciens aussi, ont souvent envie de mener des expériences et que finalement, c'est la rencontre de tout ça qui fait qu'il y a récolte à tous les niveaux, récolte de fruits et légumes, mais aussi récolte de liens, récolte de nouvelles idées, de nouvelles.
Hélène ?
Oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. Et bon, moi j'interviens plus dans l'animation des jardins collectifs, donc des équipes. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait c'est hyper important de effectivement partager les tâches et s'organiser dès le départ et pas se dire oui, de toute façon ça va se faire parce qu'un tel il aime bien faire ça, un tel il aime bien. Et en fait, si ça reste un peu informel comme ça, on veut rester dans la souplesse souvent. Donc du coup, ça reste un peu informel. Mais du coup, eh ben, ça fonctionne moins bien. Alors que s'il y a des petites équipes, hein, je ne dis pas que c'est une personne, mais si on répartit, ben, qui s'occupe plus du compost, d'autres de l'eau, l'autre, je ne sais pas quoi. Enfin bref, qu'on répartit les différentes choses à faire, eh ben, cette organisation, finalement, elle permet la souplesse. Alors c'est bizarre que ce soit moi qui dise ça, mais quand même, ouais. J'ai remarqué que ça aide, quoi, parce que sinon, s'il y a des choses qu'au départ ne sont pas prévues de faire, et ben du coup, ça va rester pas fait et ça va handicaper, ça va faire une lourdeur, ça va faire éventuellement peut-être des conflits à terme. Enfin voilà.
C'est vrai qu'on voit souvent le cadre comme quelque chose, tu parles de rigueur ou d'organisation, on voit souvent le cadre comme quelque chose de complètement enfermant, alors qu'en fait, enfin moi je le vois plutôt comme quelque chose qui pose des bases, mais c'est un cadre qui peut devenir un cercle, qui peut devenir une spirale, qui peut devenir... Voilà.
Moi, l'image que je donne, c'est celle du tuteur automate. C'est-à-dire que c'est quand même... C'est bien d'en avoir un. Et puis après, les feuilles, elles peuvent pousser un peu dans les sens qu'elles veulent, mais c'est bien que ce soit ferme et souple. Mmh. Et en pratique... Pour moi, ça signifie avoir, pour rebondir sur ce que tu disais, Meïna, juste avant, d'avoir éventuellement une mission de jardin, enfin, définir au départ quel est le rôle qu'on se donne, les rôles qu'on se donne, et pourquoi pas les écrire, de se donner des missions, et pourquoi pas les écrire, hein, je dis, et pourquoi pas, c'est pas forcément des obligations, et être prêt à les revoir régulièrement. C'est une des réussites aussi à la fois des gouvernances type... gouvernance un peu plus partagée et habile, type sociocratie, pour ceux qui veulent aller chercher ça, type encore Rêve du Dragon, c'est qu'en fait, on se donne des échéances assez courtes, et au bout de ces échéances, eh ben, on peut rediscuter les choses, parce que c'est parfois beaucoup plus facile de consentir à un fonctionnement, si on se dit, ben, ça, ce fonctionnement-là, voyons ce que ça donne pour 4 mois, ou pour cette saison, et puis l'année prochaine, on remet tout à plat, ça se trouve, on fera perdurer, ça se trouve, on remettra les choses en œuvre, mais je pense que d'avoir des jalons et un certain nombre de... Certes, avoir des objectifs, mais en plus qu'ils soient visibles, qu'il y ait un horizon qui ne soit pas trop lointain, ça permet justement de conserver cette, cette énergie.
Oui, et puis aussi se mettre d'accord sur la cadence des moments où on se rend compte pour faire autre chose que du jardin, en l'occurrence, ou autre chose que le projet en question, des moments plus conviviaux, etc. Et que ce ne soit pas non plus trop lourd, quoi, trop rapproché, trop, à trouver cette respiration aussi, ce n'est pas toujours évident, quoi. Que ce soit pas trop espacé pour pas qu'il y ait des choses qui se passent et puis qui prennent de l'ampleur et que ce soit quand même assez près pour que voilà, c'est important ce rythme à trouver aussi. Alors, je ne sais pas comment vous faites vous.
Bah, disons que bon, on n'a jamais fait de jardin partagé dans notre quartier, mais quand on fait des projets, c'est vrai qu'on essaye de se voir régulièrement pour recadrer un peu l'historique du projet sur lequel on travaille. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas que les temps soient trop espacés. Si on met un an entre deux rencontres, on a perdu le fil de l'histoire, quoi. Et puis il y a des gens qui auront été démotivés par le manque de fréquence des contacts. Alors bon, le jardin, c'est un peu différent parce que les gens, ils vont au jardin. Donc ils sont motivés par le fait d'avoir le petit bout de lopin de terre qu'ils vont aller travailler. Donc on n'est pas tout à fait dans la même logique que les conseils de quartier qui travaillent sur un projet qui parfois est un peu abstrait pour certains, quoi.
Oui, mais en même temps, dans les jardins, quelquefois les gens viennent pas du tout au même moment. Il y en a qui se voient jamais. Donc je pense que les moments où tout le monde, même si c'est 10 personnes, hein, où tous les jardiniers peuvent se rencontrer, c'est important de les prévoir parce que sinon, il y en a qui vont venir le samedi, d'autres le soir, d'autres le matin. Enfin bref, ils vont pas forcément venir en même temps, quoi.
De toute manière, c'est vrai qu'il faut écrire une forme de charte quand on fait ce genre de truc pour savoir comment on gère le jardin. Puis je crois qu'il faut se mettre, le moment convivial, il faut le mettre, on dit tous les 2 mois, on boit l'apéro, par exemple. Mais ça, c'est important, ça.
Hein? Non, mais tous les 2 mois pour des jardiniers, ce n'est pas suffisant. Pour l'apéro, c'est tous les 15 jours ou moins.
Toutes les semaines.
J'allais dire, dans certains jardins, c'est tous les jours à midi. Mais bon, je ne peux pas dire ça à la radio.
Et puis, ce ne sera pas tout le monde qui va venir.
Et ce n'est pas tout le monde qui va venir. Non, mais c'est vrai que ça, c'est important. Je vous rejoins parfaitement là-dessus. Si on ne forme pas ce noyau de gens, si on... On n'entretient pas le contact humain, on a perdu l'objectif que l'on s'était fixé au départ. Quoi. Parce que l'objectif, hormis faire pousser des légumes, c'est quand même faire rencontrer des gens et échanger. Le but, on jardine, c'est déjà de l'échange. C'est vrai que le fait d'arriver avec 2 arrosoirs, c'est de l'échange, ça. Donc il ne faut pas qu'on perde ça, c'est ça.
Voilà. Nous, on n'arrose pas en paille, Marcel. Désolé.
Non, mais bon,
nous, avec ta botte de paille, t'as
raison. Nous, on arrose encore un peu de par chez nous.
Mais d'où le rôle, c'est un des rôles que qui peut être intéressant de prévoir dans un projet collectif. Moi, j'appelle ça le gardien de l'ambiance, celui qui fait attention quand les gens commencent à se démotiver un peu, ou tiens, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, ou tiens, j'ai l'impression que là, il y a des gens qui en réunion, commencent à décrocher un peu. C'est un rôle... alors maintenant, on appelle ça un community manager, un gestionnaire de communauté. Mais l'idée, c'est ça. C'est l'idée de faire attention aux gens dans le projet. C'est aussi une garantie que le projet dure longtemps.
Ouais, un veilleur, quoi, un peu, au niveau...
c'est ça. Ouais. Quelqu'un qui...
Veilleur social, on crée un outil.
Mais aussi, ça peut aussi être une personne qui a... une fonction d'accueil dans le groupe, parce que quand les groupes sont structurés, il y a aussi ça peut paraître un peu imperméable, ça peut un peu paraître difficile d'accès pour les personnes qui arrivent, et avoir quelqu'un qui est là, qui dit bonjour, qui vous êtes, enfin qui a pour fonction de créer des atomes crochus, ça a son impact. Et il y a des gens qui font ça très bien, ce qui permet d'agrandir le groupe, de le maintenir, de le faire vivre, et puis de dire quels sont les us et coutumes, de transmettre les archives, les fonctionnements. C'est un rôle pour moi qui compte.
Et est-ce que Marcel vous avait dit comment vous ramez alors?
Comme ça.
On rame avec les mains.
Non, mais
tout dépend des projets. Il y a des projets qui démarrent et on n'arrive pas à les faire avancer. Et au bout d'un moment, ben, on abandonne. On a eu un projet de fête musicale dans notre quartier. On avait même un groupe qui aurait pu nous donner un coup de main. C'était bien parti. Et puis, il y a un riverain qui a dit « Oui, mais ça va faire du bruit. Puis là, on va le faire ça. Puis... » Et puis, de fil en aiguille, on a détricoté ce qu'on avait tricoté avant. Mm-hmm. Et c'est démotivant. Donc après, au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc c'est ça ce que j'appelle ramer, quoi. Parce que même en cherchant les arguments pour faire adhérer, eh ben, on n'arrive pas à trouver les bons mots pour que les gens viennent ou continuent à venir. Mm-hmm. Bon, ben là, bon, l'échec, ça existe dans la vie, hein, donc c'en est un. Hein. Mais quand ça se passe comme ça, c'est une très grande déception pour ceux qui ont lancé le projet, quand même. Hein. Dire on n'a pas pu aller au bout de ce que l'on avait lancé, c'est... Mm-hmm. Pas terrible. Hein.
Oui, mais là, vous rencontrez les gens. Comment ils se rencontrent dans le... Par exemple, là, il y a quelqu'un qui a une idée de faire une fête. Il propose ça donc, au quartier. Après, régulièrement, vous
voyez. On revient. Donc, nous, c'est présenté régulièrement en réunion plénière de conseil de quartier. On a une réunion plénière tous les trois mois.
Tous les trois mois, oui, c'est pas très souvent.
Non, c'est pas très souvent, mais enfin, ça en fait déjà ça quatre suffit. Par an. Oui, ça suffit. Hein, parce qu'il faut arriver à faire venir les gens, c'est un peu compliqué. Mm-hmm. Et pour un projet, comme je prends le projet dont on a parlé du Haut-le-Cassan, ça a duré 6 ans quand même, hein, pour arriver entre la première réunion et la réalisation, 6 ans. Changement de municipalité entre-temps, donc ça va bien que... Nous avons été réélus dans le conseil de quartier, donc on a pu reprendre le projet qu'on avait en attente et le finaliser. Ça aurait été une autre équipe qui arrive, ils n'avaient pas le projet, ils ne l'auraient sûrement pas repris, on n'aurait pas fait la fresque. Voilà. Donc c'est quand même assez complexe aussi tout ça. Hein. Mm-hmm. Et puis on parlait tout à l'heure, je crois qu'on a parlé de délai administratif. Quand on est dans des administrations, dire bonjour, ça prend déjà du temps. Hein.
Ça c'était off, il fallait pas le dire, maintenant on s'est fait des ennemis de tous les gens qui bossent dans l'administration, merci. Mais c'est vrai quand même que plus on va chercher dans des municipalités ou des communautés de communes, il y a plus de pouvoir, mais ça prend plus de temps, il y a une inertie qui n'est pas la même que l'agilité qu'il peut y avoir au niveau des citoyens, mais qui n'ont pas non plus la capacité de production, de communication que peut avoir un autre organisme. Et il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la question de l'argent, qui est une question qui me paraît importante quand même dans les projets collectifs. Tout à l'heure, en off, Marcel nous a dit « Ah, c'est un problème !» Voilà, moi aussi, je balance. l'argent, oh là là. Et en Rêve du Dragon, ils ont une méthode que je trouve assez intéressante pour les petits projets, et souvent les jardins, ça fait partie des petits projets, c'est qu'une fois qu'on a défini ce qu'on veut, et la mission, le rôle, enfin ce qu'on attend, chacun marque sur un petit bout de papier combien il est prêt à mettre tous les mois pendant les 6 prochains mois, sans que ça mette en danger ses finances personnelles ni quoi que ce soit, combien il est prêt à mettre en euros, et puis le facilitateur de réunion récupère ça, récupère pas le pognon, mais récupère les petits papiers, et on fait la somme de ça, et on fait la somme sur les 6 mois. Et souvent, très très souvent, on a des sommes qui d'une part dépassent les espérances, et qui servent très souvent largement à couvrir le budget, surtout pour des projets de type jardin, où certes il peut y avoir des investissements, mais qui sont souvent partagés, mutualisés, et largement rentabilisés. C'est un moyen, la subvention n'est pas forcément le seul moyen, et accessoirement c'est un moyen qui ne coûte pas, enfin la subvention est un moyen qui de temps en temps coûte très cher en termes de communication, parce qu'il faut aller voir les élus, il faut faire des dossiers, c'est très bien, moi je trouve que la subvention ça peut être très bien, et en même temps c'est pas forcément le moyen le plus, il y a peut-être des richesses qui peuvent être autrement valorisables, il y a peut-être une part des récoltes qui peuvent partir en revente, il peut y avoir des choses, des valorisations autres.
Une vente de soupe.
Une vente de soupe quand c'est la grosse saison de la courge ou que c'est gentil. Ça peut tout à fait se faire. Est-ce que vous avez d'autres contributions sur la question de l'argent? Marcel?
On peut trouver des partenaires. On pense à un jardin. Il y a des grandes surfaces qui vendent des graines, qui vendent des plantes. On peut essayer de les brancher sur le sujet. Et je pense, et même je sais, que dans certains cas, ils donnent ce qu'on appelle des plançons. Voilà, ils donnent des plançons pour les jardins. Donc, ils en donnent peut-être pas des pleins camions, mais ils en donnent un peu. Donc, ça peut se faire aussi. Parallèlement à ça, si on passe par les conseils de quartier, on a des budgets de fonctionnement. Donc, on a un élu référent au conseil de quartier. Si on présente un projet qu'il a argumenté et qu'il accepte le projet, il accepte aussi de le financer. Alors, bon, si on lui demande des projets à 50 000 euros... Je pense qu'il ne va pas dire oui tout le temps, mais si c'est des petits projets qui ne vont pas aller chercher des budgets trop élevés, À partir du moment où c'est accepté, c'est accepté. 500-600 euros, c'est des choses qui peuvent sortir, en guillemets, assez facilement. Mais bon, après, il ne faut pas être dans l'exagération et il faut présenter un projet et bien l'avoir argumenté. Il faut quand même qu'il y ait une petite retombée sur les gens qui vont utiliser. Voilà, s'il n'y a pas de retombée, ça tombe à l'eau.
C'est le principe d'un partenariat, chacun y trouve sa sauce et ça dépend de ce qu'on est prêt à y mettre aussi. On s'écoute un petit peu de musique, Caravane Namasté.
Oh Babylone sous la pluie, oh Babylone sous la pluie, oh Babylone. J'ai croisé cette fille dans une soirée, jusqu'au lever du jour, on a bien tripé, elle me fait rire jusqu'à pleurer. Et son sourire me fait rêver, mais c'est la copine de mon meilleur ami. Oh, elle est un peu coquine, elle m'embrasse sans faire de bruit. Oh Babylone sous la pluie. Il a fallu la raccompagner jusqu'à la gare. Où elle partit rejoindre son copain. Et dit demain, elle sera dans son lit. Et ça m'ennuie. Car hier j'ai vécu, car hier ça m'a plu. Les interdits sont faits pour les franchir parfait. Oh Babylone sous la pluie. Oh Babylone. Alors que sur le quai, le train pour Montpellier nous sonnait de lâcher, nous, on ne voulait pas l'écouter. Les contrôleurs peuvent contrôler, notre amour est un billet. Pas de retour, un simple aller. Oh, vous ne pouvez pas monter, ce wagon est interdit aux traîtres de l'amitié. Tu crois qu'on fait du mal et... Puis elle m'a soigné de longs et langoureux baisers. Oh Babylone sous la pluie. Oh Babylone. L'amour n'a pas de limite. Et tous ces hommes qui prennent la fuite, tes sentiments ne mentent pas. Évidemment qu'elle est faite pour toi. Tu vivras sûrement l'amour d'autrefois, tout près d'un canal. Dans les bras de Sarah. Et puis tu l'as bien mérité. Depuis toutes ces années à rester sur les quais. Dans quel train il faut monter. Oh Babylone sous la pluie. Oh Babylone. Allez vite, s'il te plaît, avant que la vie ne nous étouffe. Et ton sourire comme seul garant. Et ça se voit que tu es content. Ton cœur qui bat pour elle, pour toi. Il pleut dehors, les insultes, les combats. Mais les gouttes de la haine ne te touchent pas. Oh Babylone sous la pluie. Oh Babylone. We'll be right back.
Caravane Namasté, on est le tout. Et c'était Babylone sous la pluie, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas ça, pardonnez-moi. Couleur FM 97.1, couleur terre, dynamique collective. Alors, dynamique collective, on en a parlé un petit peu dans le vent, dans le vague, on a expliqué dans des grandes lignes, mais autour d'ici, on a un projet, une envie, quelque chose qui va se lancer, l'idée de faire un jardin sur le terrain qu'il y a autour de la radio. C'est, Hélène est très motrice, n'est-ce pas? Le fait des grands yeux. Est-ce que tu as peur? C'est le mot motrice qui te fait peur.
Oui, parce qu'on vient de dire que c'était les habitants qui seraient le moteur.
Et oui, non, mais les habitants peuvent être le moteur, mais il faut quand même qu'il y ait une étincelle. Tu es la bougie de ce moteur.
Je suis plus l'étincelle de la bougie.
Parfait. Marcel PO et la courroie de transmission au conseil de quartier.
Mais il y a une
ça va exploser, attention.
Le moteur, et toi, tu fais quoi?
Moi, je suis de l'huile à la limite, tout ça. Bon, n'empêche, ça fait. Je pense que la première fois où j'ai entendu parler de ça, c'est de ce jardin de classe, c'était quasiment il y a un an quand l'idée de l'émission est arrivée, en fait.
Oui,
peut-être
au
mois
début,
de mai de l'an dernier. Enfin, donc en fait, ça fait quasiment un an. et quasiment. Et on n'a pas encore mis le premier coup de grelinette. Non. Donc comme quoi, déjà rien que ça peut prendre du temps, ce premier temps de mobilisation. Mais on y arrive.
Mais il y a des habitants qui sont intéressés.
Exactement. Alors, comment vous les avez contactés, ces gens-là?
Les habitants, là, qui sont intéressés. Mm-hmm. Eh bien, en fait, sur... alors, c'est quoi comme quartier à l'entrée de l'autoroute, là?
Ouais.
Au péage,
donc, c'est Champaré-Boussieu.
D'accord. Il y a un jardin collectif.
D'accord, donc vous êtes appuyé sur un jardin collectif déjà présent.
Voilà, donc il est animé par quelqu'un qui est salarié du CCAS.
D'accord.
Que je connais, je ne sais plus pourquoi. Et donc, voilà, je lui ai demandé à lui, si je suis allée le voir, j'ai expliqué qu'il y avait la radio ici, qu'il y avait des émissions qu'on allait se mettre en place, et qu'il y avait un bout de terrain qui était assez grand, qui pourrait servir à des habitants, si, et je lui ai demandé si lui connaissait des gens qui étaient intéressés.
Donc ça, voilà. C'était un de tes moyens de com', ça a été ton réseau.
Oui.
Et puis un autre de tes moyens de com', c'est cette émission. Et puis on peut lui dire, si jamais vous pouvez être intéressé, on va lancer les ballons d'essai dont parlait tout à l'heure Marcel PO. Si jamais quelque chose comme ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter à Couleur FM ou même écrire questions@radioperma.org, on transmettra.
Et ce que je trouve intéressant, moi, c'était donc au début de l'émission, c'est de suivre aussi dans le jardin, que les gens puissent, quelque part en direct, que, par exemple, quand on parle des associations de culture, ben, on aurait fait un atelier avec eux, on aurait fait des choses concrètes avec eux sur les thématiques de l'émission de radio, quoi.
Et là, on touche à la différence de vitesse qu'il y a entre un petit groupe de personnes, deux ou trois, qui font quelque chose, et puis, quand il s'agit de mettre les engrenages en lien avec des machines un peu plus grosses, comme la mobilisation collective et les municipalités.
Ben déjà, même l'association, parce qu'une association, il y a un président, il faut que ce soit le président qui signe le courrier. Le courrier, il est fait depuis 6 mois, je ne sais même pas s'il est parti. Il y a toute une hiérarchie, on va dire, qui existe aussi dans le monde associatif classique, on va dire. D'accord. Il n'y a pas que dans l'administration.
Il y a une question d'assurance aussi qui joue. Ça, c'est un des grands freins, parce que ce jardin qui appartient à la radio, les bénévoles y ont accès, ils peuvent y aller. Maintenant, que fait-on avec si des personnes extérieures s'en rapprochent? Donc tout ça, on doit étudier. Ça n'a pas été encore étudié, et puis voir aussi avec l'aval de la mairie.
Les bénévoles de la radio, faut savoir qu'on leur a Titane leur en a parlé, et en fait ils n'étaient pas spécialement intéressés parce qu'ils viennent de loin, ils sont pas du quartier forcément, ça les intéressait pas d'avoir un bout de jardin là.
Puis ils sont probablement déjà impliqués aussi dans le bénévolat à la radio, ce qui fait qu'en termes de temps ils n'ont pas forcément le temps pour venir en plus gratouiller la terre en bonne compagnie. Ouais, donc en fait c'est pas le tout d'avoir une bonne idée, il faut aussi arriver à... Bah des fois, en fait, ça achoppe sur des points pratico-pratiques. Et comment on résout ces points-là?
Et par contre, quand quelque chose a démarré, on a parfois des réactions qui, au départ, étaient négatives et deviennent positives, en se disant, mais en fait, oui, pour moi, c'est possible. Il peut y avoir un revirement.
Après, ça fait penser à la démocratie, parce que dans la mairie, donc, il y a une personne qui est chargée des conseils de quartier et de la vie associative. Donc, logiquement, elle était au bon endroit pour que tout se passe bien, facilement et tout ça. Mais, en fait, c'est pas elle qui... Elle n'a pas la délégation complète de son, de son activité, ou je ne sais pas comment il faut dire. Elle doit quand même en référer à quelqu'un. Voilà, ça c'est aussi la lourdeur de la démocratie, quelque part.
Mais au-dessus d'elle, elle a une technicienne cadre qui s'occupe de...
La chef.
C'est la chef, oui. Et puis après, il y a les élus, quand même.
Oui, oui, en plus. Alors,
parce que quand tous les techniciens sont d'accord, admettons, il faut quand même que ça passe par l'élu. Et souvent, d'ailleurs, les projets, ils arrivent par l'élu et redescendent vers les techniciens pour la mise en œuvre. Là on part à l'envers. C'est Mme Mouillou. Enfin bon, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même...
C'est dans l'autre sens, quoi.
Voilà. On n'est pas dans le bon sens, a priori. Bah. Mais, enfin, pas dans le bon sens. On n'est pas passé par les élus, quoi. Voilà,
oui,
c'est
oui.
Ça, je veux dire. Mais les élus seront forcément dans le coup.
Oui, bien sûr.
Et le problème, c'est que c'est un peu délayé, ça prend du temps. Voilà. Mais c'est des choses que l'on peut... C'est des verrous que l'on peut faire sauter, ça. C'est pas un souci, quand même. Hein. Mais c'est le... Si on veut y faire pour demain, c'est pas bon. Voilà.
Oui, puis les conseils municipaux, c'est... Je sais pas combien, mais c'est pas...
Généralement, c'est une fois par mois, le conseil municipal.
Par mois, voilà,
c'est
ça, donc...
Parce qu'après, est-ce que pour faire ça, est-ce qu'ils vont être obligés de faire une délibération? J'en sais rien, c'est possible. Donc s'il faut délibérer, il faut attendre le conseil municipal. Mmh. Donc les délibérations du prochain conseil sont peut-être déjà écrites, donc ça reporte au suivant. Oui, après on rentre dans quelque chose de complexe. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, il est a priori hors de question de mettre des gens, des citoyens de la ville, dans un lieu si c'est pas carré, quoi. S'il n'y a pas l'assurance, bon, faut que ce soit blindé, parce que s'il y a un pépin, on est quand même tous mal, là, quand même. Hein. Et vous, locataire des lieux, et la ville qui aura laissé venir des gens dans un lieu pas sécurisé ou mal défini, quoi, voilà. Mais on ne baisse pas les bras, là, quand même, hein.
Ah
on
non,
y va,
non,
hein.
Non, non, on commence à avoir l'habitude, hein. On en a fait quelques-unes avant des assos et des choses comme ça. Donc on y arrivera. Et puis surtout, comme disait Titane, une fois que c'est démarré, souvent, les choses, elles avancent beaucoup plus vite que... Enfin, il y a des verrous, il y a des paliers aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une porte qui s'ouvre, et puis derrière, il y a un grand espace.
Oui. Après, il y a une question de circulation de l'information. C'est-à-dire que nous, enfin moi, par exemple, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que... C'est une friche, hein, pour l'instant, ce terrain.
Ouais.
Je ne sais pas si quelqu'un à la mairie a une idée de faire autre chose de cette friche. Ça se peut que quelqu'un ait eu une idée aussi. Ben, ce coin-là, il y a quand même, je ne sais pas, peut-être 5 000 mètres carrés, j'en sais rien. Et eh bien, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, ce coin-là, il serait super pour faire, je ne sais pas quoi, autre chose, quoi.
5 000, peut-être pas.
Non, il n'y a pas 5 000.
4 000, mais bon, il est grand, parce qu'il va quand même bien en bord aussi.
Il y a un joli tellement. Moi, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est s'ils avaient voulu faire quelque chose, ils l'auraient déjà fait.
Ah, ils sont rapides, eux.
Enfin, ils sont rapides.
Quand c'est pour
non, mais je veux dire, c'est quand même en friche depuis un bon nombre d'années.
Ah,
le terrain leur appartient. S'ils avaient dû en faire quelque chose, ils l'auraient fait. Donc, il faut savoir, par contre, que là, on est dans la zone dite Urbagare, de réaménagement de tout le secteur, et que cette partie-là fait partie du projet Urbagare qui verra le jour dans un certain temps, comme disait Fernand Reynaud.
C'est quoi comme projet, ça?
Ah ben là, c'est un projet de restructuration, gare, avec du tertiaire, des parkings, réaménagement des berges du Bion, une salle de théâtre, enfin bon... Réaménagement complet du secteur, là. Donc, mais il y aura un jardin partagé, si on le fait avant.
Ce qui peut être intéressant. Ce ne sera pas un jardin partagé, peut-être, ce sera un jardin d'habitants.
Ce sera un jardin d'habitants.
Ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est quand même d'aller, nous, rencontrer les élus et rencontrer aussi les techniciens, parce que parfois, c'est les techniciens, moi je vois sur la ville d'Annecy, hein, c'est les techniciens qui ont tenu bon sur le projet et qui ont finalement convaincu les élus, même si les élus avaient envie, il y avait quand même des peurs. Et finalement, ça a été vraiment porté par le service des espaces verts pour que les projets de jardin en ville, jardin partagé puissent émerger. Et voilà, je pense que c'est d'aller frapper à toutes les portes, de faire connaître le projet, effectivement d'arriver avec quelque chose qui tienne la route, en mettant aussi en avant vraiment le côté lien social. Parce que ça, les collectivités, ils sont quand même très très sensibles. Et voilà.
Oui, et puis il y a quand même beaucoup de collectivités, c'est les techniciens. Même si, moi, je ne dis pas ça à l'envers à l'endroit, je dis ça circule dans les deux sens. Quoi. Celui qui a une idée, ben, un peu comme chez vous. Quoi. Ça... Oui, ben là, moi, je l'ai eu au téléphone, mais pour l'instant, j'attends maintenant côté de l'association. Parce que c'est vrai que c'est aussi des bénévoles, donc ils ne sont pas aussi disponibles que des gens qui sont salariés pour ça. Quoi.
C'est encore les changements de rythme en fonction de qui fait quoi. Donc, puis aussi un truc, c'est pas hésiter à prendre sa place. C'est que si vous êtes motivé par quelque chose, porté par un projet, ben moi, je suis conseiller de quartier parce que j'avais une envie de jardin, par exemple, qui n'a pas abouti, mais où je me retrouve finalement dans une dynamique collective intéressante aussi sur d'autres thèmes, ça peut le faire.
Oui, puis quelque part, moi, je trouve que c'est un peu l'enjeu actuel ou même plus large, hein, c'est-à-dire d'arriver avec, on est chacun, on est différent. Nous, on parle toujours de diversité, ben, comment on la fait vivre, comment on y arrive, quoi, parce qu'on est différent, d'accord, mais si on a un projet et qu'on a envie de le faire vivre ensemble, ben, logiquement, ce serait bien d'y arriver, quoi.
Pour terminer, je me rends compte qu'on s'était dit qu'on répondrait à une question qui nous avait été posée de Marie Charpentier, ou Anne-Marie Charpentier. Pourriez-vous me conseiller pour proposer au conseil syndical de mon immeuble de mettre à l'ordre du jour de la prochaine AG la culture de champignons et d'endives dans les redans en terre battue du couloir d'accès aux caves fermées privées? Alors, je ne sais pas ce que c'est que le redan, mais peu importe. Mais, j'espère que cette émission t'aura quand même un petit peu éclairé, Marie Charpentier. Le conseil que je te donnerais, c'est vas-y. Lance-toi, commence à faire un groupe, va d'abord voir tes voisins avant d'aller voir le conseil syndical, regarde qui est propriétaire, qui ne l'est pas dans ton immeuble, parce que les propriétaires n'ont pas non plus la même implication dans le conseil syndical. Va leur offrir des biscuits à Noël, dis-leur bonjour. Non, mais cultive les relations avec ces gens. Je vois Hélène qui rigole, mais en fait, si tu essayes d'aller frontalement au conseil syndical toute seule, il se peut que ça prenne un peu plus de difficultés, alors que si vous y allez à plusieurs, ce sera peut-être un peu plus simple. Donc, à mon avis, commence par aller voir quelques-uns de tes voisins. Et arme-toi de patience, surtout, détermination.
C'est pas sur le principe, il n'y a pas de problème, c'est plus sur les biscuits. Il y en a qui branchent apéro, d'autres biscuits.
Oui, ben voilà, vous avez compris. Rire, vous avez compris, nous sommes des gens qui aiment de la bonne chair et c'est pour ça qu'on cultive nos jardins, pour être sûr de ce qu'on mange et de ce qu'on distille et que l'on boira avec modération. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous fasse croire, qu'on nous fasse dire ce que nous n'avons pas dit. L'apéro, c'est bien. Si c'est du jus de fruits, c'est bien aussi. On s'arrête là pour aujourd'hui ?
Ça marche.
Et ben voilà, c'était Couleur Terre, donc une émission élevée en fût de chêne grâce aux moyens techniques de Couleur FM en Isère. Une émission préparée et enregistrée aujourd'hui par Tita Nouben, sans Laurent, pour lequel nous avons une pensée très forte. Animée par Flo MCF de Radio Permaculture avec Hélène Hollard. À bientôt Hélène, ciao. Avec Meïna Vernet, ciao Meïna, notre invitée spéciale préférée, Meïna, et Marcel Péot, président du conseil de quartier local de Bourgoin-Jallieu. Au revoir Marcel. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger, mais aussi la soutenir sur radioperma.org, tout comme vous pouvez vous inscrire à nos lettres de nouvelles pour recevoir directement nos nouvelles productions, et n'hésitez pas à parler de cette émission aux gens autour de vous. Voilà, c'était Couleur Terre, avec ou sans nous, cultiver la vie.